du Brabant chez Victor. Il paraît qu'il faut les recharger. C'est vrai que notre terre est une sacrée meule pour l'acier. Ça l'use en un rien de temps. Et si Marthe estime qu'ils sont érodés, c'est sûrement vrai. C'est incroyable quand on y pense. Elle connaît mieux ce Brabant que moi. Elle laboure avec depuis bientôt 3 ans et elle sait y faire. Pourtant, pour elle, il doit être sacrément lourd. Je l'ai bien vu la seule fois où j'ai pu l'essayer. Ça faisait 2 ans que j'attendais ça. C'était début avril de cette année, pendant ma perme, quand on a planté les pommes de terre. C'est tout juste, si ce n'est pas Marthe qui m'a appris à m'en servir. Quelle époque de fou on vit. N'empêche, ce Brabant, dès la guerre finie, parole, je me ferai un plaisir et je me rattraperai avec lui de tous les labours dont cette foutue guerre m'a privé. Maintenant, je crève de fatigue. Je n'ai même plus envie de me souvenir des lettres de Marthe. Je n'en peux plus de sommeil. Et si les autres ne viennent pas me relever bientôt, sûr que je m'écroule et que rien ne me réveillera. Pas même les rats. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 23h40. Minuit moins 20. Je vais bientôt pouvoir y aller, soupira Marthe en frottant ses yeux maintenant rouges de fatigue. Mais avant, il faut que je sois sûre de m'endormir tout de suite. Autrement, mon attente au coin du feu aura été inutile et tout ce que j'ai encore sur le cœur et dans la tête va me tenir éveillé dans le noir et pour longtemps. Alors, tant qu'à faire, attendre encore un peu ici. Attendre au moins jusqu'à minuit, comme chaque soir. Et profiter de cette fatigue qui m'écrase de plus en plus pour vider enfin l'abcès, en espérant que le sommeil qui va m'assommer bientôt emportera cette angoisse qui me ronge. Car même si ça fait mal, comme de creuser une dent gâtée avant de se rincer la bouche à l'eau-de-vie, je dois aller jusqu'au bout pour tenter de me débarrasser, pour un temps, de ce souvenir affreux qui m'écrase et me terrorise. Il faut que j'affronte cette horreur que je porte en moi comme une plaie purulente, que je me batte pour repousser cette peur qui me torture à l'idée d'avoir, moi aussi, à vivre l'horrible expérience que je redoute. Et il me faut gratter cette blessure ici, au coin du feu, qui me rassure un peu, et dont la lueur rend moins sinistre les cris et les images qui seront insoutenables si je les laisse m'assaillir tout à l'heure, dans l'obscurité de la chambre. Car si je ne domestique pas un peu et tout de suite ces visions, elles vont venir me torturer dès que j'aurai étouffé la lampe. Et le cauchemar éveillé sera aussitôt là, comme un chien enragé que rien n'arrête. Ce cauchemar, comme celui vécu il y a un mois, juste un mois aujourd'hui, en cette fin de matinée du 20 novembre, un lundi. Maudit lundi. Un mois aujourd'hui. Le docteur Treillard, venu faire une piqûre à Octavine, car elle n'allait pas très fort, venait juste de repartir pour Costeblanc. Il faisait beau, frais mais beau, et j'étais dans la cour en train de donner un peu de grain à la volaille, lorsque le hurlement a retenti. Jamais, jusqu'à mon dernier souffle, je n'oublierai cette longue et insoutenable plainte qui a résonné de vallon en vallon. Ce cri de détresse était si puissant qu'il a fait s'envoler un gros vol de palombes, jusque-là occupé à gober les glands dans notre chenet à 100 pas d'ici. Il était tellement inhumain et pitoyable, ce cri, tellement chargé d'une indicible douleur que j'ai tout de suite compris. Alors, sans même prévenir Octavine, qui d'ailleurs somnolait et n'avait pas besoin de moi, j'ai couru vers le Pradel, cœur au bord des lèvres. J'ai couru chez Francette, vers cette ferme d'où fusait toujours ce terrorisant et pathétique chant de détresse. Et j'ai parcouru les 500 pas qui nous séparent du Pradel en serrant les dents pour ne pas joindre mes gémissements à ceux de mon ami, à ceux de Francette, folle de douleur au milieu de la cour qui se frappait le visage et le crâne de ses poings, que tentait en vain de calmer Victor Delbos, ce pauvre pauvre mère, fois de plus messager de la mort. Je revois la scène, je la revois et je la redoute, car je sais qu'elle me menace et que, demain peut-être, Victor Delbos sera là, figé devant moi, défait, muet. Il sera là et n'aura rien à dire, rien à annoncer, puisque sa seule présence proclamera la nouvelle. Je revois la scène et je la refuse. Je la rejette tout de suite, comme chaque soir depuis un mois. Je revois Francette, anéantie, et qui se martèle la face comme pour se punir d'avoir trop aimé et trop attendu celui dont la définitive absence la rend maintenant folle, décidée à se jeter dans le puits ouvert devant elle, et dont Victor lui interdit l'approche en la retenant à bout de bras. Je revois ses parents, le vieux Clément tout perclus et qui pleure sans bruit, presque avec honte, comme pleurent les hommes, mais dont les larmes perlent au bout de la moustache blanche. Je revois sa mère, anéantie et tout en larmes muettes, elle aussi, qui tente de cacher sa détresse, qui se retient, car le petit André de 2 ans, qui vient sans doute de sortir du sommeil, maintenant cramponné à son tablier, la regarde sans comprendre encore. Ce fils qu'Édouard désirait tant, désormais seul porteur du nom dont les yeux papillonnent, prêts à déverser leur flot de larmes, dont les lèvres frémissent et annoncent les pleurs imminents. Je revois Francette, qui découvre ma présence, échappe à Victor et se jette sur moi, me frappe et me griffe, non pour me faire mal ou me blesser, mais parce qu'elle a besoin d'agir, de taper comme elle hurle. Francette qui accuse le monde entier et même moi, et qui n'a pas tort de le faire. Francette qui soudain crie en me serrant dans ses bras, en s'accrochant à moi comme à une perdue, une enfant terrorisée, et qui, après m'avoir frappé, m'embrasse et m'enlace en répétant entre 2 sanglots « Pourquoi c'est toi qui es toujours favorisé? Pourquoi? Déjà à l'école, c'était toi qui avais Jean pour te protéger. Tu as toujours eu plus de chance que moi, toujours, et pas juste. Pourquoi Édouard et pas un autre? Pourquoi lui et pas Jean? Pourquoi mon homme est mort et pas le tien? » Et moi qui ne peux rien dire, car il serait atroce de lui avouer, de m'avouer, que sa peine, que je partage, est égoïstement atténuée parce que, justement, c'est Édouard qui est parti, pas Jean. Moi qui ne peux rien dire, car je ne veux formuler l'abominable évidence, à savoir que l'un n'empêche pas l'autre, que la mort d'Édouard ne garantit pas la vie de Jean et que, peut-être, déjà, puisque là-bas, sur le front, chaque seconde est un risque. Car tel est mon cauchemar maintenant, ma hantise. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la mort qui frappait déjà alentour depuis 28 mois vient de franchir un nouveau pas dans ma direction. Qu'elle est désormais installée là, dans cette ferme du Pradel, à portée de voix et de cris de chez nous. Là, dans les pitoyables sanglots de Francette, mon amie de toujours, ma sœur, qui ressasse cette question à laquelle je ne peux répondre. Pourquoi lui et pas un autre? Ce matin-là, je n'ai rien su dire. Je n'ai pu que tenter de calmer Francette en la conduisant jusque dans la maison. Là, je l'ai fait asseoir dans le cantou, et je me suis glissé à côté d'elle, juste pour être là, la tenir dans mes bras. Pour être là, à écouter sa plainte, en me taisant, car aucun mot n'avait de sens. Plus tard, de retour ici, lorsque j'ai eu, sinon la certitude, du moins le sentiment que Francette ne commettrait pas l'irréparable en se jetant dans le puits, et que j'ai vu ces 4 filles, retour de l'école et malgré leur flot de larmes, former autour d'elle une bonne garde, j'ai dû subir les reproches d'Octavine. Elle s'était levée, malgré sa faiblesse, et s'était traînée jusqu'au coin du feu.
« Où diable étiez-vous passé? Je vous appelle depuis plus de 3 heures.